Je vais nous inviter à nous tenir tous.
Tenons-nous tous sur nos deux pieds. Il vient de proclamer, jusqu'à la mort je chanterai. Jusqu'à l'éternité je chanterai. Parce que le Seigneur fait bien et même très bien ce qu'il fait. Dieu a bien voulu que tu sois ici ce soir parce qu'il voudrait t'affermir et t'édifier davantage. Bénis son saint nom pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie depuis le début de ce programme. Dis-lui merci pour le vent de la restauration qu'il libère sur ta maison, qu'il libère sur toi-même, qu'il libère sur ton ministère. Dis-lui merci pour ta présence ici ce soir. Dieu a certainement voulu que tu sois là parce qu'il a un message particulier à te transmettre. Confesse que tu ne partiras pas d'ici sans avoir été béni de manière spéciale par l'Éternel des armées. Yahvé t'a certainement fait venir ici parce qu'il voulait parler à ton cœur. Dis-lui Seigneur, ce soir parle à mon cœur. Dis-lui, Seigneur, ce soir, montre-moi ta face. Fais-moi connaître ce que je ne connais pas. Enseigne-moi, Seigneur, sur ce que j'ignore jusqu'ici. Seigneur, donne-moi d'explorer les méandres même. Donne-moi d'aller jusque dans les profondeurs de la connaissance de ta parole, de la vérité. Père, tu nous as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Réunis ici ce soir, nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Lui qui est l'enseignant par excellence. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici parce que nous voulons voir les lèvres d'un homme nous transmettre quelque chose. Mais nous voulons recevoir de toi-même, Saint-Esprit. Nous voulons apprendre de toi-même, Saint-Esprit, ce qu'il faut que nous fassions pour être au centre, pour être le cœur de toutes choses. Seigneur Dieu vivant, ici et maintenant, tout ce qui est charnel, ô Dieu, disparaisse. Pour que seule l'action du Saint-Esprit soit vécue et expérimentée par chacun de nous. Seigneur, comme Jean-Baptiste, nous confessons qu'il faut que tu croisses et que nous diminuions. Saint-Esprit, prends la place qui est tienne en ce lieu ce soir. Dispose de chacun de nos cœurs. Prépare nos cœurs tel un terreau fertile qui reçoit la semence, la bonne graine qui vient de toi. Que cette graine ne tombe pas sur des terres arides, que ça tombe sur des terres fertiles. Seigneur, donne le produit des fruits dignes de toi, dignes du royaume, dignes de la lumière, Seigneur, que nous sommes censés révéler. Seigneur Jésus-Christ, merci et sois le bienvenu parmi nous. Sois béni et sois exalté dès maintenant et pour jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen.
Le micro, ce n'est pas bien.
Bien-aimé, bonsoir. Voilà. Avant de commencer, je vais nous inviter à lire quelques passages. Le premier texte que nous allons lire est celui de 1 roi, chapitre 17, le verset 1 uniquement. 1 roi, chapitre 17, le verset 1. Nous lirons ensuite Matthieu 5, 13 et 14, Romains 8, 19 à 22. 1 roi 17, verset 1. Là, il est écrit. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akar, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Matthieu 5, 13 et 14.
Là, nous lisons. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Romains 8, 19 à 22. Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Je lis. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir à tous et à chacun. Je faisais un constat. Celui selon lequel, lorsqu'on s'engage dans les programmes d'au moins un mois, au fur et à mesure qu'on avance, c'est comme si les effectifs diminuaient. Et pourtant, nous aimons dire et chanter que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais lorsqu'on le sait, il est difficile d'être le même hier, aujourd'hui et demain. Et pourtant, la Bible nous demande d'être les imitateurs de Dieu, n'est-ce pas? Si nous confessons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain, ça veut dire qu'en tant qu'imitateur de Jésus, je dois être le même hier, aujourd'hui et demain. Quand je parle du même hier, aujourd'hui et demain, c'est le même en Jésus. Pas que si hier j'étais pécheur, que je sois le même aujourd'hui, pécheur et demain pécheur. C'est pas de ça que je parle. Le thème que nous allons aborder ce soir est intitulé « Sois le cœur ». Je veux avouer que pour moi, c'était l'un des thèmes les plus compliqués que j'ai eu à préparer dans notre manuel « Oser recommencer ». Sois le cœur. Tu as un voisin? Hein? Tu as un voisin? Dis-lui, sois le cœur. Voilà. Et si tu n'as pas de voisin comme le pasteur Raymond, tu dis, sois le cœur. C'est-à-dire que tu t'adresses à toi-même, n'est-ce pas? Sois le cœur. Pourquoi est-ce que nous abordons ça alors qu'on est en train de sortir du manuel? En principe, lorsqu'on parle du cœur, on voit généralement le centre, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un est au cœur d'une action ou d'une activité, c'est que la personne est au centre. Ça veut dire qu'en réalité, s'il fallait classer autrement, on devait prendre ce thème et mettre au milieu du programme. De manière en disant à quelqu'un, soit le cœur, que le thème lui-même soit déjà au cœur du programme. Mais si le Saint-Esprit a voulu qu'il soit le premier thème qui clôture le dernier module du carême, c'est que c'est à dessein pour Dieu certainement. Peut-être nous ne comprenons pas encore pourquoi. Mais le Seigneur certainement sait là où il nous amène. Il sait pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'on commence à finir par soi le cœur. Lorsqu'on parle de être le cœur, c'est parce que le Seigneur qui t'a appelé ne t'appelle pas à jouer les seconds rôles. Jamais. Dieu ne t'appelle pas à jouer les seconds rôles. C'est pourquoi dans la liste de bénédictions qui est présentée dans Deutéronome chapitre 28, lorsqu'il clôture, il dit, tu seras la tête et non, tu seras premier et non,
dernier.
Ça veut dire que tu n'es pas appelé à être en périphérie, mais Dieu te veut au centre. Amen. Je dis Dieu te veut au centre. Parce que c'est du centre qu'il va influencer. Lorsqu'on étudie même la géographie ou bien les séismes et autres, on se rend compte que pour que, ou c'est, je ne sais pas si c'est le magma, sorte et explose à la surface, ça commence par un point qu'on appelle l'épicentre. Si je me trompe, les géographes, le séisme, merci. Ça commence par un point qu'on appelle l'épicentre. C'est-à-dire, ça part de là, ça se conçoit là-bas, ça se développe là-bas, et c'est lorsque c'est déjà mûr que ça explose et qu'on vit la chose à l'extérieur. Donc, lorsque le Seigneur t'appelle à être le cœur, il veut te dire que tu dois être le centre. Et il y a une différence entre être au centre et être le centre. Parce que lorsqu'on dit que tu es au centre, ça veut dire que tu es dans un mouvement. Tu es un élément parmi tant d'autres. Mais lorsqu'il te dit que tu es le cœur, ça veut dire que tu es l'élément sur qui il compte pour faire ce qu'il a à faire. Dieu, à travers ce programme, voudrait te faire comprendre qu'il ne t'appelle pas à être dans la masse. Il ne t'appelle pas à te fondre dans la masse, mais il t'appelle à être l'élément central sur lequel il compte. Il t'appelle à être le point focal à partir duquel, s'il a une influence à faire, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que tu sois son point de départ. Autrement dit, je vais te dire ce soir que tu es le point de départ de Dieu. Amen. Dis-le à ton voisin. Tu es le point de départ de Dieu. C'est avec toi qu'il veut commencer. C'est avec toi qu'il veut commencer quelque chose. Parce que le plus souvent, nous aimons parler des révolutions, contempler, apprécier, admirer ce que les révolutionnaires ont fait. Mais nous oublions que le révolutionnaire dont nous faisons allusion peut être nous aussi. Les changements que tu attends, ça peut partir de toi. J'ai étudié avec beaucoup de passion l'histoire des Noirs américains. Et je me rends compte que pour qu'on ait tout le mouvement qui a abouti à la libération des Noirs, il a fallu qu'un jour, une femme nommée Rosa Parks, à l'intérieur d'un bus, dise à un blanc, « Je ne te donne pas ma place. » C'est tout. Et c'est de là que tout a déclenché. Jusqu'à ce qu'on parle après des matins, du taking, les marchés et tout. C'est une femme qui a commencé quelque part dans un bus. Parce que dans le bus, il y avait le côté des blancs et le côté des noirs. Il savait qu'elle prend le bus quand le côté des noirs est saturé. Elle s'assoit au côté réservé aux blancs. Et un blanc lui dit, mais est-ce que tu ne vois pas ce qui est inscrit là-bas? Elle dit, je vois très bien, mais je suis une personne comme toi. Je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Et cette femme qui au départ, parce que lorsqu'on parle de l'histoire, on oublie son nom, mais c'est d'elle. Elle a été le cœur. Elle a été au centre. Elle a été le point de départ. C'est pourquoi je t'ai dit que tu es le point de départ de Dieu. Donc garde ça. Tu es le point de départ. Dieu a des grandes choses à faire. Ça veut dire quoi être le cœur? Être le cœur, c'est choisir de devenir une ressource et même une source. Choisis de devenir non pas seulement une ressource, parce que la ressource peut être juste une référence. Mais lorsqu'on dit que tu es la source, ça veut dire que tu es là où les gens viennent s'abreuver. Lorsque Dieu choisit Abraham, dans Genèse chapitre 12, et qu'il lui dit, je ferai de toi une grande nation, il lui rappelle, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple contact que tu auras avec les gens sera pour eux un avantage. Le simple fait pour les gens de s'approcher de toi sera pour eux un atout pour être béni. Lorsque Dieu dit que tu es une source de bénédiction, il veut simplement dire que parce que tu as dit bonjour à quelqu'un, il a touché, tu lui as communiqué la bénédiction. C'est ça la source. Ça veut dire que partout où tu te trouves, ta seule présence suffit pour que les gens qui sont dans cet environnement soient comblés. La preuve, il y a une scène de la Bible que j'aime bien. Jacob, lorsqu'il fuit son frère, il se retrouve chez Laban. Il arrive chez Laban. Laban était un éleveur. Laban était un idolâtre. Mais parce que Jacob est arrivé chez Laban, la Bible dit que les richesses de Laban sont allées en se multipliant. Et tellement ses richesses se multipliaient qu'il ne voulait plus se défaire de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était la source de sa richesse. Il dit à Jacob dans un premier temps, travaille 7 ans, je vais te donner ma fille. Comme si 7 ans c'était l'éternité. Après 7 ans, il dit non. Je te donne plutôt la plus grande. Travaille encore 7 ans. Et quand il a maintenant les deux femmes, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux encore? Il commence à diminuer son salaire. La Bible dit qu'il a modifié son salaire plus de 10 fois. Tout ça parce qu'il voulait le garder. Il a vu en lui une source de richesse. Et c'est ça être le cœur. C'est être une source. Être le cœur, c'est une source de joie, c'est une source de paix, c'est une source de réconciliation. Quand le Seigneur te dit que tu es le cœur, il est en train de te dire que c'est à partir de toi que les changements, les transformations vont se produire. Mais ton problème, c'est que tu attends toujours que ça vienne de l'autre. C'est ça le problème que tu as. Tu oublies très vite ce que tu es. La raison pour laquelle le Seigneur a pointé son doigt et t'a désigné comme étant la personne travailler. En fait, s'il t'a pointé du doigt et t'a choisi, c'est parce qu'il voulait que tu sois le point de départ de quelque chose. Je reviens toujours sur le point de départ. Être le cœur, c'est influencer les vies, même dans l'anonymat. La personne qui influence n'est pas forcément la personne que nous voyons. On a souvent l'habitude de dire, derrière un grand homme se cache. Ça veut dire que cet homme est grand. Parce qu'au cœur de sa vie, il y a une grande femme. Elle influence sa vie, même si on ne la voit pas toujours. Un bien-aimé nous faisait un jour un témoignage qui m'a tellement marqué. Il parle d'une histoire où une femme qui cherchait la face de Dieu priait à l'intérieur d'une assemblée. Elle prie et un jour le Seigneur lui révèle que le pasteur qui venait d'arriver et qui faisait tellement de bonnes choses, dans la vision qu'elle a, le Seigneur lui dit, le pasteur de la communauté va mourir. Elle a commencé à prier. Seigneur, ne fais pas ça. Mais plus elle priait, plus la chose se précisait. Elle dit, Seigneur, il vient d'arriver. Nous n'avons même pas encore savouré les délices de son ministère. Comment est-ce que tu veux nous l'enlever? Voilà un jeune sur qui beaucoup compte. Mais elle ne comprend pas pourquoi quand elle oriente ses prières de cette manière, Dieu ne dit rien. Quelque temps après, il y a une grande mère qui est entrée en communauté et s'asseyait quelque part au fond, très vieille. Avec sa canne, elle s'asseyait et à la fin du culte, elle sortait. La grand-mère est décédée. Ça n'a même pas dit grand-chose à la communauté. Un dimanche, on dit, la mère qui s'assoit souvent, au fond, là, est morte. Vous savez que le genre, là, ça ne fait pas trop de bruit en communauté. Et c'est pendant que la femme prie que le Seigneur lui dit, effectivement, le pasteur est décédé. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Vous êtes en train de voir les actions, le ministère, la puissance du pasteur. Mais c'est cette grand-mère qui prie pour qu'il soit si efficace que vous le voyez. Voilà pourquoi je t'ai dit que le pasteur va mourir. En fait, le cœur de cette église, ce n'était pas l'homme de Dieu qui est devant sur la scène. Mais c'était cette grand-mère que tout le monde oublie. Et c'est ça, influencer même en restant dans l'anonymat. Influencé, mais en étant oublié de tout le monde. Tu n'es pas toujours obligé d'être devant de la scène. Il y a des personnes que Dieu choisit comme cœur, qui choisit d'être devant de la scène. Et le jour où il choisit d'être devant de la scène, il meurt. Quand je dis qu'il meurt, c'est-à-dire qu'il tue ce que le Seigneur voulait faire à travers elle. Il arrive que Dieu te choisit. Il dit, c'est avec toi que je dois faire.
Faire avec toi ne signifie pas qu'il va t'exposer. Faire avec toi ne signifie pas que tu seras toujours au devant de la scène. Tu peux être le cœur, mais en restant dans l'anonymat. Tu peux être le cœur en restant dans la masse. Tu peux être le cœur sans toujours jouer les premiers rôles dans ton église. Et la raison pour laquelle beaucoup sont passés parfois à côté de leur ministère, c'est parce qu'ils veulent être le cœur en étant la tête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il dit, tu veux être le cœur en étant la tête. Si Dieu a dit tu es le cœur, la preuve, regardez mon corps, vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Mais si mon cœur cesse de fonctionner, maintenant je suis fini, je m'écroule là. C'est clair, non? Il influence, mais il est dans l'anonymat. Il influence, mais il est caché quelque part. Sache que quand Dieu peut faire de toi le cœur, mais il te façonne loin des regards de certaines personnes. Il y a des personnes que si elles voyaient comment le Seigneur est en train de te bâtir, elles étoufferaient très vite ce que tu es. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, Dieu ne forme pas toujours ses héros dans les palais. La preuve, prenez la Bible. Le jour où Moïse est entré au palais, Dieu l'a sorti pour l'amener au désert. Et c'est là où il l'a formé. Le jour où Joseph est entré au palais chez Potiphar, Dieu l'a sorti et l'a amené en prison. Et c'est là où il l'a formé. Le jour où David est entré au palais chez Saül, Dieu l'a sorti et l'a amené et a fait de lui un fugitif. Et c'est là où il l'a formé. C'est ça être le cœur. Être le cœur, c'est influencer en étant conduit par le Seigneur. Être le cœur, c'est devenir une référence. J'allais même dire un modèle. Paul dit à son fils Timothée, j'aimerais qu'on aille ensemble à ce texte. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Tout le monde est à la page avec moi. 1 Timothée 4, verset 12. Si tu n'es pas à la page, tu notes, tu écoutes, c'est important. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Voilà ce que ça veut dire être le cœur. Être un modèle. Un modèle. Nous allons ici aller pas à pas. Il dit un modèle en parole. Un modèle en parole. La Bible nous dit que la langue, c'est un petit membre, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jacques dit que les hommes ont dompté les animaux, les bêtes les plus féroces. Mais leur langue, il leur est difficile de dompter leur langue. Et être le cœur, c'est dompter d'abord sa langue. Être le cœur, c'est apprivoiser sa langue parce que c'est un animal très dangereux. Être le cœur, c'est être un modèle en parole. C'est veiller sur ce qui sort de sa bouche. Jésus dira que ce n'est pas ce qui entre qui nous détruit, mais c'est ce qui... C'est ce qui sort qui te détruit. C'est ce qui sort qui te ruine. Voilà pourquoi en tant que cœur, tu dois être un modèle en parole. En tant que cœur, tu dois être un modèle en conduite. Tu dois être capable d'amener les autres au Seigneur. Pas de les éloigner du Seigneur. Parce que beaucoup de cœurs qui ont choisi de devenir la tête finissent par éloigner les gens de Dieu. Parce qu'ils deviennent une source de scandale au lieu d'être une source d'inspiration. Quand tu as quitté le couloir qui est tien, une chose est vraie. Dans une course de vitesse, si tu es enregistré au couloir 4, tu cours, tu sors le premier, mais en arrivant au couloir 3, ton chrono ne compte pas. Parce que tu as quitté. Tu étais vigoureux, plein de force. Tu as fait de très grandes choses. Tu as fait de belles choses. L'église a acclamé. On t'a vu à l'œuvre, tu étais présent, tu agissais, tu faisais de grandes choses. Mais, tu es arrivé dans un autre couloir. et ton temps ne sera pas pris en compte. Et il ne faut pas que ton temps soit vain. Il faut que ton temps soit pris en compte par le Seigneur. Paul parle à son fils. Il lui dit, tu dois être modèle en conduite, en charité, en foi et en pureté. Être un modèle en pureté, c'est être constant dans sa vie de sainteté. Parce que beaucoup ont des sanctifications saisonnières. On a des saisons où on se comporte comme des musulmans. Excusez-moi de dire ça. Parce qu'un musulman, la période du carême, tu lui parles de quoi? Du jeûne du ramadan. Qu'est-ce que soit ce que tu dis? Je suis en période de ramadan. Je suis, dès que ça finit. Beaucoup sont là. Si maintenant tu parles, nous sommes au carême. Ça, c'est la période du jeûne. La période où on se maîtrise. Après la période du jeûne, on enlève le manteau du jeûne. On accroche quelque part. On prend le vrai vêtement qu'on a. On met sur soi. Malheureusement pour toi, quand Jésus t'appelait, tu sais ce qu'il a dit aux disciples quand il les envoyait? Ne prenez pas deux tuniques. Prenez une seule tunique. La tunique d'évangélisateur. En dehors de ça, il ne veut pas avoir un autre vêtement sur toi. Être le cœur, c'est un modèle en pureté et pas le genre de pureté de certains temps, de certaines saisons, mais de tous les temps. C'est pourquoi j'ai commencé par attirer notre attention sur notre nombre au départ et notre nombre à l'arrivée quand il y a les programmes. Si je suis constant avec le Seigneur, je serai toujours dans les choses du Seigneur. Mais s'il y a des saisons où je suis chaud avec le Seigneur et des saisons où je suis froid avec le Seigneur, je ne serai pas le cœur, parce que Dieu ne fait pas avec des personnes qui abandonnent à certains moments. Pas du tout. Le Seigneur te veut toujours bouillant à son œuvre et à son service. Nous avons utilisé, et vous l'avez vu pour ceux qui ont le manuel, deux images qui te rappellent que tu es le cœur. La première image, c'est celle de la lumière, et la seconde, c'est celle du sel. Mais nous allons commencer par la seconde image. Beaucoup de femmes savent que quand elles font leur cuisine, si le repas n'est pas suffisamment assaisonné, on dit qu'il est comment? Ou bien s'il n'est même pas salé, on m'a dit qu'il est comment? Qu'il est? Voilà. J'ai souvent mangé le repas de ceux qui font le régime. J'ai béni Dieu pour la foi qu'ils ont eue depuis qu'ils font le régime. Parce qu'il faut beaucoup de foi pour manger. Parce qu'au départ, quand on était dans l'alimentation salée, bon, on était à l'aise, n'est-ce pas? Si Jésus utilise cette image, c'est parce qu'il a choisi deux éléments indispensables dans la vie. Ça revient encore à l'image du cœur. Être le cœur, c'est être indispensable. Quand il te dit que tu es le sel, ça veut dire que tu es indispensable pour l'assaisonnement de la vie de ton église, indispensable pour l'assaisonnement de la vie de ta famille, indispensable pour l'avenir du service où tu es, indispensable pour l'avenir de la nation. Voilà le sel. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que partout où tu es, ta seule présence doit donner aux gens le goût de vivre. Ta seule présence doit donner aux gens le goût de servir le Seigneur. Le goût de se lever et de s'asseoir dans une assemblée comme ça, écouter la parole de Dieu. Mais combien de fois est-ce que les gens ont dit, s'il faut aller là-bas pour être comme tel, vaudrait mieux rester au quartier. Combien de fois est-ce que tu as été seul uniquement quand tu es ici? Mais dès que tu sors, tu deviens une toute autre personne. Les collègues sont parfois surpris. Vous entendez les commentaires de certains. Vous me dites que la femme s'y parle à l'église. On est ensemble. Il y a ton voisin, tu es le sel. Tu es le sel. Le Seigneur, quand il utilise ça, il te rappelle. Et il te dit, pourquoi est-ce qu'il te dit que tu es le sel? Il te dit que tu es le sel parce que ta présence seule, je l'ai dit déjà, donne le goût. Ta présence seule inspire quelque chose. présence motive. En tant que celle, tu es une couverture et même une protection pour ceux qui sont autour de toi. Plusieurs fois, je lisais dans un livre l'histoire d'un missionnaire qui était allé, je crois, en Inde. Il a demandé à séjourner dans une maison. On a permis qu'il séjourne dans la maison. La famille s'est levée le matin et on s'est rendu compte que les animaux que la famille élevait sont tous morts. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Le missionnaire, en priant, Dieu lui dit qu'il est venu frapper cette maison et parce qu'il était dans cette maison, il a pu frapper les animaux. Voilà ce que ça veut dire être le cœur.
Tu es
quelque part, ta présence est une protection pour ceux chez qui tu es. Ta présence est un plus, ta présence est une couverture pour eux. Regardez un peu ce qui se passe entre Abraham et Dieu. Quand il dit, je vais frapper Sodome et Gomorrhe parce que le crime est à l'excès. L'odeur spirituelle qui monte de Sodome et Gomorrhe est telle que je ne peux plus me retenir, dit le Seigneur. Et comme disait un de nos bien-aimés, Abraham et Dieu ont engagé le commerce de Bayam Salam et d'acheteur. Seigneur, s'il y a 50, ouais, Abraham, c'est pas une affaire de 50. Seigneur, même 40, même 30, même 20, même 10, même 5. Si tu n'es pas le cœur, tu ne peux pas parler avec Dieu comme ça. Tu ne peux pas. Parce qu'être le cœur, c'est être le complice de Dieu, être l'ami de Dieu. Et la question que je vais te poser, est-ce que tu es le complice de Dieu? Est-ce que quand Dieu veut agir, même dans ta propre maison, il peut dire, cacherai-je à ma servante telle ce que je vais faire? Cacherai-je à mon serviteur telle ce que je vais faire? Être le cœur, c'est devenir un élément incontournable à tel enseigne que quand Dieu veut même faire des choses, qu'il te dise d'abord. Et je crois que si chacun vivait comme tel, comme le cœur, c'est que toutes nos communautés sont bénies. Ça, je vous le dis. Parce que quand le Seigneur voudrait faire des choses, que ce soit la bénédiction ou la colère qui va s'abattre, il parle à son cœur et il dit, mon cœur, j'ai envie de faire telle chose dans ta paroisse. Et tu peux même intercéder comme Abraham l'a fait. Tu peux crier au Seigneur pour qu'il retienne la coupe de sa colère qui a été libérée. En fait, Dieu t'a choisi en tant que cœur afin que tu sois un agent et un instrument de réconciliation. C'est ça aussi le sel. Parce que le sel vient donner la saveur pas à une partie du repas, mais à tout le repas. Ça veut dire que toi, en tant que cœur dans ta famille, tu es l'élément de point de départ de la réconciliation. Amen. Tu es celui sur qui Dieu veut partir pour rassembler ceux qui sont dispersés. Voir des gens se mettre ensemble, ça a commencé quelque part. Ça a commencé avec quelqu'un. Ça a commencé avec une personne qui a accepté, qui a choisi d'être le cœur. Et si tu es le cœur dans ta famille, comment est-ce que le cœur est là? Et il donne le sang seulement à certaines parties et ne donne pas à d'autres parties. Le rôle du sang, c'est de ravitailler le corps en sang. Le rôle du cœur, c'est de ravitailler le corps en sang, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans ta famille, tu donnes le sang à certaines parties, à d'autres, tu ne donnes pas? Pourquoi? Pourquoi même chez toi, dans ta maison, mère, il y a des choses. On connaît les enfants avec qui tu causes certaines choses. Et certains avec qui tu ne causes pas. Tu as le cœur, pourquoi tu les as divisés? Combien de mères, excusez-moi de parler aux mères, ont cessé de jouer le rôle de cœur et ont séparé alors que le Seigneur leur demandait de rassembler. L'amour, la lumière que tu produis, c'est pour certains. Et pour d'autres, tu faisais plutôt les ténèbres. J'ai eu une grand-mère dans ma famille qui faisait des choses comme ça. Elle rassemble les enfants. Telle qu'elle se comporte, tu sens que non, ici, là, elle aime la mère de celui-ci plus que la mère de celui-ci. Elle aime la mère de celui-ci plus. Femme, pourquoi vous faites ça? Je ne voulais pas accuser les femmes. Mais je voulais simplement leur rappeler qu'elles sont le cœur. Amen. Vous êtes le cœur. Et Dieu veut faire avec vous.
Je me suis arrêté pour parler simplement aux femmes.
En tant que cœur, le Seigneur te rappelle ce soir que tu es la, que tu es sa solution au problème des hommes. Regarde-toi toujours comme la solution de Dieu partout où tu te rends. Si le Seigneur t'accepte dans un corps, laisse, t'affecte dans un corps, laisse d'abord les plaintes de côté et vois ce en quoi il veut t'utiliser comme cœur là-bas. Plusieurs fois, les travailleurs sont là, ils m'écoutent. Le Seigneur t'a placé quelque part. Au lieu de comprendre la raison pour laquelle il t'a placé, tu as commencé le murmure et parfois même tu te bats pour n'aimer les hommes. Et fuis le plus vite. Alors que tu es le cœur. Dieu t'a envoyé là-bas parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une anémie sévère là-bas. Et tu étais le cœur qui devait ravitailler ce corps de son sang. Et c'est la raison pour laquelle il t'a placé là-bas. C'est la raison pour laquelle il a voulu que tu sois là-bas. Mais comment as-tu été le cœur? L'autre image qu'il utilise pour te dire que tu es le cœur ce soir, c'est que tu es une lumière. Imaginez un peu ce qui se passerait ici si on n'a pas de lumière. Imaginez un peu dans une salle à 22h, on n'a pas de lumière. Imaginez un peu le monde sans lumière. Dieu te dit que tu es la lumière parce que il t'a établi afin que tu repousses les ténèbres partout où tu te trouves. En fait, ce n'est pas de toi qu'on devait entendre parler de corruption. Ce n'est pas de toi qu'on devait entendre parler de tribalisme et autres. Parce que tu es la lumière. Partout où il y a lumière, les ténèbres reculent. Partout où il y a lumière, la puissance de Dieu se manifeste. Partout où il y a lumière, il y a une attraction naturelle qu'on ne comprend pas. Regardez un peu ce qui s'est passé entre Jésus et le fou de Gadara. Quand il le voit, c'est-à-dire quand les ténèbres ont vu la lumière, il dit, Jésus, fils du Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Les ténèbres ont rencontré la lumière et ont commencé à paniquer. Voilà ce qui se passe quand tu es le cœur. Quand tu es le cœur, si tu es quelque part, les sorciers de là vont commencer à se sentir dérangés. Et oui, on va t'affecter dans un corps, tu vas arriver là-bas. Quelqu'un tous les jours va monter tout contre toi parce que le cœur est arrivé là-bas. La lumière est arrivée, il ne supporte plus. Ces choses qu'il faisait avant, ça ne passe plus. Tu n'as même pas prié contre lui ou pour lui. Tu ne lui as rien dit. Il ne te salue même pas, il ne te donne même pas l'occasion de lui dire quelque chose, mais tu le déranges. Parce que la lumière est là-bas. En tant que cœur, tu es dans la lumière. Tu es la lumière. Et en tant que lumière, éclaire. N'éclaire pas pour toi, mais éclaire pour les autres. L'ampoule n'éclaire pas pour elle, mais elle éclaire pour les hommes. Tu es une lumière que Dieu utilise pour combler les vies. Pour se révéler dans les vies. Et pour faire de très grandes choses. Comment est-ce que je devrais me comporter en tant que cœur si je suis le cœur? Pour demeurer cœur, je dois développer une intimité profonde avec le Seigneur. En tant que cœur, développe ton intimité avec Dieu. Parce que si tu n'es pas intime de Dieu, tu ne vas pas être ravitaillé. Par conséquent, tu ne vas pas ravitailler les autres. Est-ce que tu n'as jamais observé qu'il y a des moments de ta vie de foi où tu ne communiques rien aux gens? Vous imaginez, peut-être Dieu t'appelle à être chante, je ne sais pas, ou prédicateur. Mais il y a des moments où tu communiques, tu sens que tu n'es pas en train de donner quelque chose aux gens. Tu sens que tu es vidé. Tu sens que tu es complètement épuisé. Tu sens que tu es flétri. Pourquoi? Parce que la connexion avec Dieu a diminué. Et lorsque la connexion avec Dieu diminue, tu ne reçois pas de Dieu. Quelqu'un qui veut être le cœur doit rester dans l'intimité avec Dieu. Doit demeurer l'intime de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu voulait agir, il avertissait Abraham. Parce qu'Abraham s'est comporté comme cœur. Développe donc ton intimité avec le Seigneur. En tant que cœur, ne permets pas aux impuretés de polluer ta vie. Imaginez un peu le cœur qui est affecté. Quel genre de sang est-ce qu'il va transmettre au corps?
Un sang pollué. Merci mon ami. Un sang pollué. Et un sang pollué, c'est pour répandre la maladie dans le corps, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi il y a des personnes qui entrent dans un groupe et tout va mal, tout chute, tout échoue. Parce qu'il y a une pollution qui s'est infiltrée. Il a dénaturé ce que le Seigneur voulait faire. A détruit, a dévié ce que le Seigneur voulait faire. Vous comprenez pourquoi il y a des personnes qui parlent, au lieu de vous communiquer la vie de Christ, ils vous communiquent plutôt quelque chose, une pollution qui vous détruit. Vous sortez d'un moment où il fallait rencontrer le Seigneur, mais vous ne vous sentez pas bien. Quelqu'un chante, c'est comme si on vous fléchait. Quelqu'un prie pour toi, c'est comme si tu étais mal à l'aise. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois qu'à un moment donné, l'église peut se trouver telle qu'elle est là où elle est avec ce qu'elle a. Parce que les gens ont oublié que Dieu ne voulait pas que le cœur soit pollué. Dieu n'a pas voulu que le cœur soit pollué. C'est souvent trop facile de se réjouir des petits exploits que nous avons réalisés, des grandes choses que nous avons eu à faire. Mais c'est aussi trop facile dans ses réjouissances d'ouvrir la porte au diable, de laisser l'ennemi détruire ce que Dieu a pris du temps pour bâtir. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que la puissance de la destruction agit plus vite que celle de la construction? Le temple, si on a mis des années pour construire, mais dites un peu à Razel que mets ça à terre, 10 minutes c'est fini. En 10 minutes, on oublie qu'il y avait un temple ici. Tu passes des années à bâtir, à construire des vertus dans ta vie. Mais pour un petit péché d'adultère, comme a dit quelqu'un, pour un petit détournement au service, tu vois comment le cœur disparaît, le cœur cesse de battre. Dieu t'a choisi, tu étais le cœur. Tu étais plein, il comptait tellement sur toi. Quand tu disais une chose, la chose arrivait. J'ai commencé par lire Élie, qui en son temps était le cœur. Et lorsqu'il a parlé, il a dit la pluie ne va pas tomber pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Parce qu'il était le cœur. Quand tu es le cœur, lorsque tu parles, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui avait parlé. Dieu devient un exécutant des paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu es le cœur. C'est pourquoi en tant que cœur, le Seigneur te dit ne maudis pas mais bénis. Parce que ce que tu diras s'accomplira. Élie a dit la pluie ne tombe pas. La pluie n'est pas tombée. De là où tu te trouves, tu peux influencer toute la paroisse de Tamdia si tu es le cœur. De là où tu te trouves, ta prière peut influencer l'orientation de cette communauté si tu es le cœur. De là où tu te trouves, ta prière peut donner une autre orientation, peut donner une autre vision à la vie de ta communauté, si tu es le cœur. En tant que cœur, ne recule jamais devant la pression. Jamais. Ne recule jamais devant l'adversité. Quel que soit ce que tu pourras rencontrer, ne recule jamais. Le Seigneur appelle le prophète Jérémie, il est encore très jeune. Il lui dit, je t'ai établi afin que tu abattes, que tu détruises, que tu plantes, que tu. Mais il dit à Jérémie, ne dis pas que je suis jeune. Il savait que Jérémie devait regarder à sa jeunesse. Plusieurs fois, Dieu a voulu faire avec toi en tant que cœur. Tu as dit, je suis une femme. Est-ce que je vais parler? Les hommes vont comprendre. Plusieurs fois, tu as voulu parler. Mais en toi-même, tu dis, je suis un nouveau converti. Est-ce que les vieux là vont me comprendre? Mais le Seigneur te dit, si tu dis que je suis jeune, et il poursuit en disant à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler davantage. Autrement dit, si tu trembles, je vais te faire grelotter. Si tu paniques, je te ferai paniquer davantage. Mais si tu te lèves comme Élie en son temps, vous connaissez le genre d'adversité qu'Élie avait. Une femme vient de tuer tous les prophètes qu'il y a dans le pays. Et c'est dans ce contexte que tu te lèves et tu dis que la pluie ne va plus tomber pendant 3 ans et demi. Une femme a lancé un mandat d'arrêt international contre le prophète Élie.
Et c'est dans ce contexte qu'il dit le genre de choses ici. Il faut être le cœur pour parler comme ça. Il dit, ne tombera ni rosée ni pluie, sauf à ma parole. Ça veut dire, si je ne dis rien, rien ne va se passer. C'est ça, être le cœur. Être le cœur, c'est prendre des décisions dans ta chambre et ça influence ta communauté. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. J'ai dit cœur. Que être le cœur, c'est prendre des décisions dans ta chambre et ça influence ta communauté. Élie a pris une décision, seul à seul avec Dieu, et ça a influencé tout le pays. Pendant 3 ans et demi, les gens n'avaient pas ce qu'ils devaient manger parce que le cœur de Dieu avait parlé. Les gens n'avaient pas d'eau à boire parce que le cœur de Dieu avait parlé. Ce qui nous dérange le plus souvent, c'est qu'on veut agir comme qu'un homme a peur de souffrir. Quand il dit que la pluie ne va pas tomber, ça ne veut pas dire que sur lui ça va tomber. Même lui sera dedans. Il n'aura pas à boire, il n'aura pas à manger. Mais parce qu'il faut que le message de Dieu passe et que les gens changent, il faut aussi souffrir. Tu ne vas pas amener des transformations si tu n'acceptes pas aussi de souffrir. Jésus t'a sauvé parce qu'il a accepté de souffrir. Paul a écrit des lettres qui nous bénissent parce qu'il a accepté de souffrir. Mais parce que tu ne veux pas souffrir, tu n'as rien fait depuis. Tu fuis les épreuves. Voilà pourquoi tu n'es pas le cœur depuis. Quand tu arrives déjà au centre, à cause du fait que tu veux protéger quelque chose, tu esquives. Mais quand il faut lever les mains pour dire adieu, comme la gile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Quand il veut donner la forme, tu dis, Seigneur, non, l'autre forme, ça ne m'intéresse pas. Je préfère telle autre. J'aime bien les paroles de cette musique. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours. Ah. Et quand il veut faire, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Et tu sais ce que je te réponds? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi c'était seulement les Élie et les Paul? Tu prêches sur Paul, non? Tu prêches sur Pierre, non? Comment on l'a mis en prison, non? Mais quand tu vois aussi, tu fuis. Pourquoi? On a tellement peur des épreuves qu'on verse dans la compromission. Et pourtant, Dieu dit que tu dois être le cœur. Ne recule pas. Daniel, en son temps, quand on a dit à Daniel que si tu pries à notre Dieu que le roi, on va te jeter dans la fosse. La Bible dit que Daniel, quand il priait, il ouvrait les fenêtres. Il m'a dit que même si vous voulez en passant vous écouter, je prie mon Dieu. Et 3 fois le jour, il le faisait. Il ne se cachait pas pour le faire. Et parce qu'il a fait, arrivé à la maison, vous lisez ce texte. Daniel 6, verset 32 jusqu'à la fin. Quand le roi peut dire, je fais lire. Daniel 6, partie du verset 30. Je suis avec vous. Il dit, non, c'est pas le verset 32. À partir du verset 25 plutôt. Merci. Après cela, le roi, à partir du verset 25, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Amen. Quand tu acceptes de rester le cœur, va cesser de t'attendre. La bouche de ton ennemi va adorer le Dieu que tu sais. Il a dit, même contre le décret du roi, imaginez que quelqu'un se met à tout dire. Il dit, on ne fait plus telle chose dans le pays ici. Et tu fais. C'est ce que ça veut dire. Et la suite, c'est que parce que tu as fait et que les griffes des lions ne t'ont pas atteint, la bouche de ton ennemi célèbre la grandeur de ton Dieu.
Et le roi va au point d'imposer, mais maintenant ce n'est plus par évangélisation, mais c'est imposition. Il impose, il dit dans mon royaume, si quelqu'un n'adore pas le Dieu de Daniel, il aura affaire à moi. Parce que Daniel a choisi d'être le cœur. Dis encore ton voisin, sois le cœur. Être le cœur enfin, c'est laisser le Saint-Esprit t'utiliser pour accomplir la vision de Dieu pour toi. C'est laisser le Saint-Esprit t'utiliser pour accomplir la vision de Dieu pour toi. Le prophète Esaïe en son temps, quand il parle dans Esaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour, et il cite, il m'a oint pour guérir, il m'a oint pour ouvrir les yeux aux aveugles, il m'a oint pour, il m'a oint pour, il m'a oint pour. Voilà ce que ça veut dire. Si je suis conscient de ce que je suis le cœur, ce que le Seigneur m'a donné son onction pour quelque chose. Je n'ai pas voulu revenir sur certaines choses parce qu'on a fait le thème sur suivre la direction du Saint-Esprit. En fait, être le cœur, c'est suivre la direction du Saint-Esprit. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige, qui te conduit par ses dons, par ses fruits, tu seras une personne bénie et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige, ce que tu feras aura de l'impact dans les vies et beaucoup de personnes seront comblées par ton ministère. Dieu ce soir te rappelle que tu es son point de départ. Il veut faire de grandes choses avec toi. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi si tu n'as pas encore découvert sa vision pour toi? Et quand tu l'auras découvert, ne te mets pas seulement au centre, mais sois le centre dans cela. Ce n'est qu'à ce prix-là que le Seigneur t'utilisera et t'amènera où il veut t'amener. Sois le cœur, sois le point de départ de Dieu. Parce qu'avec toi, Dieu a de très grandes choses à accomplir. Pas seulement pour toi, mais pour ta famille, pour ton église, pour notre société et même pour le monde entier. Parce que nous ne savons pas encore jusqu'où le Seigneur t'amènera.
J'agis devant le potier, donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta gloire. Je vais habiter chez toi tous mes jours ici et que ma vie et que ma vie un parfum devant toi, Seigneur. Devant toi, mon roi. Fais de moi ce que tu veux.
Est-ce que c'est réellement ton désir de laisser le Seigneur faire de toi ce qu'il veut? Je veux que tu dises ce soir au Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de mon ministère ce que tu veux. Fais de mes dons et talents ce que tu veux. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit de diriger ta vie, même sans demander ton avis. Permets ce soir au Saint-Esprit de disposer de ton temps comme il veut. De disposer de tes talents comme il veut. Dis-lui, Seigneur, je veux véritablement et de tout mon être être le cœur. Seigneur, je ne veux pas être un seul élément, mais je veux être l'élément principal que tu utilises. Je veux que ce soit tu pries comme un missionnaire que le Seigneur a mandaté dans ta famille. Et que tu lui dises, Père, je veux être le cœur que tu utilises pour. Je ne sais pas pour ramener les cœurs. Je ne sais pas pour réconcilier. Je ne sais pas pour briser certaines malédictions qui pèsent sur les vies depuis des années. Où certaines choses ne décollent pas. Où certaines choses n'avancent pas. Dis-lui ce soir, Seigneur, je veux être le point de départ. Je veux être l'instrument que tu utilises. Comme Jérémie, utilise-moi pour abattre là où il faut abattre. Utilise-moi pour détruire là où il faut détruire. Utilise-moi pour planter là où il faut planter. Utilise-moi pour rebâtir là où il faut rebâtir. Demande au Seigneur ce soir de te former dans son école à lui. Dis-lui, Seigneur, je veux apprendre à tes pieds. Je veux grandir à tes pieds. Je veux connaître à tes pieds. Moïse n'a pas appris en étant au palais, mais il a appris en étant au désert auprès du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, amène-moi dans le désert qui te plaît. Et forme-moi, Seigneur, pour le ministère de gloire et de puissance pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. Le Seigneur te rappelle ce soir que tu es le seul qu'il veut utiliser pour assaisonner les vies. Dis-lui, Seigneur, que ce soit dans mon lieu de service, je suis le seul. Je suis le seul. Ma seule présence est une bénédiction pour les autres. Je suis le seul. Ma seule présence est une bénédiction pour mon entreprise. Est une bénédiction pour ma famille. Je suis une bénédiction pour mes enfants. Je suis une bénédiction pour mes frères et sœurs. Je suis une bénédiction pour ma grande famille. Parce que je suis dans cette famille. Les autres sont bénis. Les autres sont guéris. Confesse qu'à cause de toi, la peste et les flèches du malin n'atteindront pas les membres de ta maison. Le Seigneur t'a dit ce soir, ne recule devant rien. Confesse qu'au nom de Jésus, tu ne recules devant rien. Tu ne recules pas devant les géants. Tu ne recules pas devant l'adversité. Tu ne recules pas parce que les hommes ont cherché à te faire peur. Parce que les gens t'ont intimidé. Yahvé t'a dit ce soir que si tu es le cœur, ta parole sera comme une parole venue de lui-même, comme sa parole. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux être le cœur, la bouche par laquelle tu parles, la bouche par laquelle tu bénis, la bouche par laquelle tu restaures, la bouche par laquelle tu réunis, la bouche par laquelle tu réconcilies. Père, ce soir, je te dis merci parce que tu nous rappelles que nous sommes le point de départ de quelque chose, le point de départ d'une révolution, d'une transformation, d'une restauration. Seigneur, nous voulons à travers l'œuvre que le Saint-Esprit mène dans nos vies, être aux côtés des autres, pas seulement un canal de bénédiction, mais une source de bénédiction. Pas seulement des vecteurs d'une certaine faveur, mais Seigneur, des sources même de cette faveur, des sources de guérison, des sources de restauration, des sources, Seigneur, de protection. Merci Seigneur parce que ce soir, tu déclenches quelque chose dans la vie de mon frère. Tu déclenches quelque chose dans la vie de ma sœur. Tu déclenches quelque chose dans la famille d'un bien-aimé. Tu déclenches quelque chose dans le cœur d'un bien-aimé. Parce que ce soir, tu libères ta pluie, Seigneur. Et qu'un désert commence à revêtir dans le cœur de quelqu'un. Un désert commence à revêtir dans la maison de quelqu'un. Seigneur Jésus, reçois toute la gloire. Fais encore de moi ce que tu veux que je sois. Fais de la vie de quelqu'un ce que tu veux. Fais du ministère de quelqu'un ce que tu veux. Amen.